Chapitre 10. Sol, Brown, Martin Silenus et le consul transportent leur équipement, le cube de Mobius et le corps de Lennart Hoyt jusqu'au long plan incliné qui conduit à l'entrée du Sphinx. Une fine neige tombe maintenant obliquement, tourbillonnant à la surface des dunes toujours changeantes, en une danse complexe de particules chassées par le vent. Malgré l'annonce de l'aube par les persocs, il n'y a pas la moindre lueur à l'est. Des appels répétés à la radio n'apportent aucune réponse de Cassade. Sol Weintraub s'arrête devant l'entrée du tombeau du temps, qu'on appelle le Sphinx. Il sent la chaleur de sa fille contre lui sous la cape et la respiration régulière du bébé sur sa gorge. Il serre tendrement le petit paquet dans ses bras et s'efforce d'imaginer Rachel à 26 ans, avec son équipe de chercheurs, hésitant à l'entrée de ce même tombeau avant d'aller en explorer les mystères anthropiques. Il secoue la tête. 26 longues années, toute une vie. Dans 4 jours, ce sera le jour de la naissance de Rachel. S'il ne fait rien, s'il ne trouve pas le Gritch pour conclure un marché avec lui, Rachel mourra.
« Vous venez, Sol ?»
demande Brown Lamien. Les autres ont entassé leur matériel dans la première chambre, à 5 ou 6 mètres de l'étroit corridor de pierre.
« J'arrive !»
leur crie-t-il. Ils pénètrent dans le tombeau. La galerie est bordée de chaque côté de globes bioluminescents et d'ampoules électriques, mais ils sont poussiéreux et ne fonctionnent pas. Seule la torche de Sol et la lanterne de Cassade leur éclairent le passage. La première chambre est de petite taille, pas plus de 4 mètres sur 6. Les 3 autres pèlerins ont posé leurs affaires contre le mur du fond et étalé des toiles et des couchages au centre du dallage glacé. 2 lanternes sifflent, jetant une lumière froide. Sol s'immobilise pour regarder autour de lui.
« Le corps du père Hoyt est dans la salle voisine »,
murmure Brown Lamia en réponse à sa question muette.
« Elle est encore plus froide que celle-ci. »
Sol prend place à côté des autres. Même à cette distance de l'entrée, il entend le crépitement du sable et de la neige contre la pierre.
Le consul va faire tout à l'heure une nouvelle tentative pour contacter Gladstone,
explique Brown Lamia.
Il faut la mettre au courant de la situation.
Martin Silenus se met à rire.
C'est inutile. Ça ne servira foutrement à rien. Gladstone sait ce qu'elle fait. Elle ne nous laissera jamais sortir d'ici.
J'essaierai après le coucher du soleil,
dit le consul d'une voix qui semble épuisée.
Je monterai la garde,
propose Sol tandis que Rachel s'agite et pleure doucement.
Il faut que je lui donne à manger de toute manière.
Les autres semblent trop là pour répondre. Brown s'adosse à un paquetage. Elle ferme les yeux. Quelques secondes plus tard, sa respiration devient lourde et elle s'endort. Le consul abaisse son tricorne sur ses yeux. Martin Silenus croise les bras et regarde fixement l'entrée. Il attend. Sol Weintraub sort un biberon automatique. Ses doigts gourds et arthritiques ont du mal à arracher la bande autochauffante. Il regarde à l'intérieur de son sac et s'aperçoit qu'il ne lui reste plus que 10 biberons et une poignée de couches. Le bébé tête. Sol dodeline de la tête sur le point de s'endormir. Soudain, un bruit les réveille tous.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demande Brown qui cherche fébrilement l'automatique de son père.
« Chut !»
intime le poète en avançant la main. Le bruit se fait de nouveau entendre. Il vient de l'extérieur. C'est un son bref et définitif qui couvre le bruit du vent et les crépitements du sable.
« C'est le fusil de Cassade !»
leur dit Brown Lamia.
« Ou de quelqu'un d'autre !»
fait remarquer Silenus à voix basse. Il demeure quelques instants silencieux, tendant l'oreille. Mais on n'entend plus rien pendant un bon moment. Puis soudain, un vacarme infernal explose dans la nuit. Un bruit qui les fait se recroqueviller de terreur et se couvrir les yeux et les oreilles. Rachel hurle, terrorisée elle aussi, mais c'est à peine si l'on entend ses cris dans le déchaînement de fureur et d'explosion qui entoure le tombeau.